La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, le pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Aujourd'hui, pour ce culte de Pâques, je vous invite à lire deux textes dans les Écritures en rapport avec la résurrection du Christ. Oui, Christ ressuscité, Christ est l'espérance de la gloire. Donc deux textes qui se trouvent dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et un deuxième texte qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, au chapitre 15. Je vais vous dire un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts se réveilleront impérissables, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable, et que le mortel revête l'immortalité. Et lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Alors nous voyons dans ce dernier texte, notamment ce texte dans l'Épître aux Corinthiens, que Paul nous parle d'un mystère en nous disant que nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est une traduction qui un euphémisme pour parler de la mort, l'endormissement. Et ce mystère, quel est-il? C'est que simplement la bonne nouvelle, c'est que par notre union au Christ ressuscité, Paul nous dit que nous avons l'assurance que nous entrerons dans la présence glorieuse de Dieu. Tous nous serons changés à la résurrection dernière. Tous nous revivrons dans un corps glorieux parce que notre espérance qui est dans le Christ ressuscité, fait en sorte que tous les croyants ressusciteront en Christ de la même façon que lui est ressuscité. Et cette foi nous garantit notre résurrection parce que Christ est ressuscité des morts. Au verset 52, l'apôtre Paul parle d'une transformation, d'une résurrection subite en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Ces expressions nous renvoient au fait que c'est Dieu et lui seul qui accomplit son plan, qui décide le temps où vont se réaliser ces événements. Il nous parle d'une dernière trompette qui évoque donc le rassemblement du peuple d'Israël quand celui-ci, dans l'ancienne alliance, devait se préparer au combat. Ici, l'image de cette dernière trompette correspond à l'idée du rassemblement. Il n'y aura plus de combat dans cette phase de l'histoire du salut, justement parce que lors de cette dernière trompette, les combats que nous avons dans cette chair et dans ce monde seront terminés. Mais le dernier combat qui sera en fait mis en route sera le combat par rapport à la mort qui enfin sera vaincue. Et Paul nous dit que nous serons changés. Tous nous serons changés. En effet, l'entrée dans l'éternité glorieuse par la résurrection ne pourra se faire que par une transformation radicale et soudaine de tous les croyants. Et comment s'opérera ce changement? L'apôtre Paul nous dit au verset 53 de l'Épître aux Corinthiens, « Par un revêtement ». Il faut en effet que le périssable, c'est-à-dire la condition humaine actuelle, revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Alors la notion de revêtement décrit bien qu'il est question ici d'un corps. C'est un corps glorifié, certes un corps nouveau, mais c'est bien le propre corps de chaque croyant, revêtu de potentialités nouvelles et extraordinaires. Et cette transformation est absolument nécessaire parce qu'il est impossible d'entrer dans la gloire du royaume de Dieu, dans sa présence glorieuse. Il est impossible de vivre dans l'ère nouvelle sans passer par cette renaissance, cette résurrection. Parce que la chair et le sang, comme il nous le dit, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, car le périssable n'hérite pas l'impérissable. L'expression de l'apôtre Paul « tous nous serons changés en un instant » implique que jusqu'au retour du Seigneur, jour de la résurrection, nous sommes tous vivants, les vivants et les morts, dans l'attente d'entrer dans cette gloire céleste. Les morts ne sont pas les morts en Christ, les défunts ne sont pas encore rentrés dans cette gloire céleste. Eux aussi attendent ce temps final, ou comme le dit Paul, la dernière trompette, image donc du retour du Christ, sonnera. Donc personne n'est à ce jour encore entré dans cette gloire. Tous sont rendus vivants dans le Christ, mais chacun en son rang, comme le dit l'apôtre Paul au verset 23, le Christ comme prémisse, c'est-à-dire comme point de départ, comme exemple finalement. Et puis, à son avènement, c'est-à-dire à son retour, les croyants, ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin. Ce que nous pouvons aussi comprendre de ce texte, c'est que ceux qui, comme le dit l'expression dans cet euphémisme, ceux qui sont endormis dans la paix du Seigneur, c'est-à-dire les croyants, attendent dans sa communion, dans la communion de foi actuelle, que Dieu les ressuscite au jour glorieux de son avènement. Dans les versets 54 à 57, Paul parle que le périssable aura à ce moment-là revêtu l'impérissable, que le mortel aura revêtu l'immortalité. Autrement dit, parler de résurrection, c'est implicitement aussi parler du périssable, du mortel, parler donc de la mort. Aujourd'hui, la mort est occultée, on en a peur. N'ayons pas peur, nous croyants, de cette mort qui, finalement, mettra un terme aux souffrances actuelles pour nous donner l'espérance, enfin, de pouvoir atteindre la résurrection. La Bible nous présente la mort donc comme le dernier ennemi. Certes, un ennemi, mais le dernier, que Christ a déjà vaincu. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. La mort est donc le dernier ennemi parce que tout simplement, après elle, après la mort, il n'y a plus d'ennemi. Après cette victoire, il n'y aura plus d'autres batailles à mener. Ce sera le combat de la mort, le combat décisif, où nous pourrions dire la mort mourra. La mort et le séjour des morts, comme nous le dit l'auteur de l'Apocalypse, seront jetés alors dans l'étang de feu, l'étang de feu qui est la seconde mort. Autrement dit, la fin d'une ère où justement cet ennemi qui est la mort sévit tour à tour. Alors prenons courage, Christ a vaincu la mort, Christ a déjà vaincu la mort. La victoire sur notre propre mort est donc pour nous croyants assuré, c'est là notre espérance. Dans le temps présent, nous vivons cette victoire et ce salut en espérance. Nous sommes dans l'attente certaine de vivre un jour la destruction de la mort pour entrer dans ce salut. L'issue positive de ce combat ne fait pas l'ombre d'un doute, puisque Jésus est ressuscité comme prémisse de tous ceux qui le suivront. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans notre quotidien, la mort continue de frapper. Elle reste l'ennemi public numéro un, si j'ose dire. Le périssable n'a pas encore revêtu l'impérissable, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Nos corps corruptibles n'ont pas encore revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire la fin de cet état actuel de nos corps, de notre vie humaine, qui connaît le changement, qui connaît la fatigue, qui connaît les épreuves, la souffrance, les pleurs, la maladie. Oui, nous sommes encore effectivement dans l'ère de dans une économie de vie humaine, dans une économie du salut, ou dans une condition de vie humaine où effectivement nous vivons encore dans des corps qui subissent encore les assauts de la situation dans laquelle nous sommes. Nos corps charnels n'ont pas encore revêtu toutes les potentialités glorieuses que nous aurons alors de la dimension céleste qu'a connue le Christ le jour de Pâques dans sa résurrection. Pourquoi cette mort continue-t-elle de frapper tout autour de nous? Parce que, nous dit l'apôtre au verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché, malheureusement, est toujours présent dans notre vie. Le péché est toujours présent dans notre monde. Le péché tel le venin d'un serpent empoisonne l'être humain dès qu'il vient au monde. Mais ceux qui sont en Christ bénéficient d'un puissant antidote. Un puissant antidote qui neutralise complètement le poison du serpent ancien. Oui, comme dit l'apôtre Paul dans ce texte, la mort a été engloutie dans la victoire et la résurrection du Christ nous en donne une preuve certaine. Oui, Christ est ressuscité. Si la piqûre du Saint-Esprit nous a bien inoculé la vie de Jésus par sa résurrection, alors le dard de l'ennemi n'aura plus aucun effet sur nos vies et nous pourrons crier avec l'apôtre Paul, « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» Mais déjà, les croyants vivent dans l'espérance de la résurrection et peuvent goûter dès aujourd'hui, dès maintenant, dans cette économie de la vie humaine telle que nous la vivons, cette joie que nous donne le Saint-Esprit. Ils sont appelés à regarder aux choses d'en haut, comme nous l'avons vu dans le premier texte de Colossiens. Vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Jésus, dans la foi, bien sûr, dans la foi et dans l'espérance. Donc déjà, les croyants sont appelés à regarder à cette promesse glorieuse de la résurrection des corps et peuvent dès maintenant en jouir d'une certaine façon dans leur cœur. Regarder aux choses d'en haut, c'est finalement regarder à cette réalité de notre union au Christ ressuscité, là où il est ressuscité à la droite du Père. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ dans la foi, alors nous pouvons chercher les choses d'en haut, les voir, les goûter, les expérimenter. Nous pouvons nous affectionner aux choses spirituelles et non à celles qui sont charnelles, car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Effectivement, quand Christ paraîtra dans sa gloire et dans la puissance de sa résurrection, alors notre vie paraîtra. Que veut dire l'apôtre Paul? C'est-à-dire qu'alors, par la résurrection, Dieu révélera qui nous sommes, des enfants de Dieu, morts et ressuscités en Christ. Alors, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Il est vrai que la mort nous choque. Il est vrai que la mort peut nous effrayer. Il est vrai que la mort peut nous faire peur, nous attrister, d'autant plus quand ce sont des proches qui en sont les victimes. C'est bien normal. Comment ne pas être sensible à de telles séparations qui sont de véritables déchirements affectifs? Mais en vertu de la solidarité qui nous unit, qui unit les croyants au Christ ressuscité, nous avons une espérance. Oui, parce que Christ est ressuscité le jour de Pâques. Dieu alors rappellera la vie du monde futur, ceux qui ont choisi de lui appartenir dès la vie présente. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, ne nous décourageons pas. Soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Nous voyons bien dans ce dernier verset 58 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, le lien qu'il y a entre l'espérance et la façon dont nous pouvons envisager notre vie ici-bas. Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est-à-dire fort de cette espérance, encouragé par cette espérance, ayant la foi que Christ est ressuscité et que par la foi nous sommes unis en lui, alors soyons fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Il y a un lien entre notre espérance, l'espérance du Christ ressuscité et de notre propre résurrection, avec notre propre fidélité à la vérité de l'Évangile, avec notre persévérance et notre courage. La foi en Jésus-Christ ressuscité nous permet de tenir ferme dans les jours difficiles, dans les épreuves. La foi au Christ ressuscité nous donnera le courage d'affronter toutes les morts, tous les deuils. Et nous pouvons alors comprendre davantage ce texte de l'Épître aux Hébreux. « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Jésus lui-même est devenu comme nous. Il a participé à notre nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a écrasé le diable et toute sa puissance, ainsi que la mort, celui qui détient la puissance de la mort. Et il délivre ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et parce qu'il est le Dieu de la vie, il nous communique par le Saint-Esprit l'espérance de la vie éternelle. Il nous communique la puissance de la vie du ressuscité. C'est donc notre espérance à la résurrection du Christ qui est notre source d'inspiration et de motivation pour que nous puissions travailler avec foi, avec ardeur dans l'œuvre de Dieu. Bien loin de nous endormir, cette espérance nous stimule et nous encourage à être des porteurs d'espérance autour de nous. Bien loin de nous anesthésier à la souffrance des hommes et des femmes qui nous entourent, cette espérance nous sensibilise par la compassion et l'amour de Christ qui nous habite. Bien loin de nous démobiliser des problèmes de notre monde, cette espérance nous invite à nous engager activement dans ce monde auprès de nos concitoyens pour apporter la lumière de l'Évangile, l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance de la résurrection, l'espérance que l'amour du Christ a déposé dans nos cœurs. Oui, c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec foi. Si nous nous donnons de la peine, si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Quelle est ta réelle espérance en cette vie? En quoi l'espérance chrétienne, telle qu'on vient de la définir, peut-elle te motiver à servir Dieu? En quoi l'espérance chrétienne peut-elle orienter ta façon de considérer ton prochain? Voilà des questions que nous pouvons nous poser ce jour de Pâques. Comment cette espérance peut-elle féconder ta vie? Quelle place a l'espérance chrétienne concernant tes choix de vie? Est-ce que tu prends en compte cette espérance dans les choix décisifs auxquels tu dois faire face? Oui, c'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Si nous nous donnons de la peine et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant qui a manifesté sa gloire en ressuscitant son Fils bien-aimé.
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. De blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Toi, oh Dieu.